Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour à toutes et tous, merci de nous retrouver cette semaine pour un petit tour dans nos affinités électives. Celles qui rendent la vie un peu plus jolie, un peu plus poétique, un peu plus passionnante. Au sommaire cette semaine, des déviations, l'Auvergne, des gros textes, un atlas et des hommes, et bien entendu, nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. On débute avec Laurent Moisson, directeur de publication du magazine Les Déviations. Une publication qui fait la part belle à des histoires individuelles et collectives de changement de cap. On l'écoute.
C'est un magazine, mais avant c'était un média digital. Donc on est né, nous, sur Instagram et sur Facebook. Et on a connu des audiences, notamment vidéo sur Facebook, absolument phénoménales. Hein, puisque je crois que la troisième vidéo a fait 7 millions de vues. Enfin, c'était un truc de fou. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on, tout simplement, en laissant les gens raconter leur changement de vie de façon simple, c'est-à-dire dénuée, avec des histoires dénuées de tous ces mots un petit peu ronflants ou techniques, un peu jargonneux que certains coachs peuvent avoir, etc. Simplement en disant, voilà, il m'est arrivé ça, je me suis fait plaquer, j'ai été viré, j'en avais marre de mon boulot, j'ai changé, j'ai rencontré l'amour de ma vie ou je ne sais quoi, et ben ça touchait tout le monde. Donc c'était une histoire complètement universelle qu'on a voulu raconter. Voilà, donc c'est parti. Donc,
ça parle aussi évidemment d'un ras-le-bol du travail, on parle de bullshit job, du burn-out, du changement de vie évidemment.
Si les déviations, on va dire, plus personnelles, hein, puisqu'il y a eu, enfin, notamment on travaille beaucoup autour de la maladie, autour de l'exil, autour, j'allais dire, tout ce qu'on appelle les déviations subies, où on a, d'ailleurs le premier numéro était vraiment basé. Et donc derrière, le sous-jacent, c'est la quête de sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Et évidemment, la dimension travail est importante, parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps, et surtout parce que aujourd'hui, avec la baisse de spiritualité, hein, avant, le travail ne tenait pas le centre de la société, hein, c'était plutôt la spiritualité qui était au cœur de la société. Maintenant qu'elle a baissé, eh ben, en fait, on cherche tous à se raccrocher sur quelque chose et
trouver des valeurs dans le travail.
Exactement. Et donc, c'est
paradoxal. C'est pas toujours simple.
Ben non, mais surtout, c'est très paradoxal. C'est-à-dire qu'on dit, on ne veut pas être défini par notre travail, et pourtant, on va quand même chercher un travail qui nous définisse. Donc, il y a beaucoup d'attentes, et quand vous avez beaucoup d'attentes sur quelque chose qui n'est pas fait pour ça, parce que le travail n'est pas fait pour donner un sens à votre vie,
il y a beaucoup de déceptions.
Et ben, il y a beaucoup de déceptions. Ouais. Voilà.
Là, vous présentez votre numéro 2 dans le cadre un peu particulier aussi du salon Made in France, d'un événement ici sur les quais de Saône autour de l'industrie. Est-ce que tous ces liens, en fait, comment vous les faites, comment ça existe dans votre magazine? Est-ce qu'il y a des annonceurs dans votre magazine, etc.? Comment ça marche?
Sur les annonceurs, on a plus des soutiens que des annonceurs, hein, qui sont des gens qui ont voulu soutenir notre démarche parce qu'ils trouvaient que la renaissance et la revalorisation de ce qu'on a appelé à un moment donné les métiers du fer, FAIRE, hein, c'est-à-dire ces métiers de fabrication, ces métiers très concrets où on va produire quelque chose de ses mains, ces métiers manuels, qui ont été vraiment dépriorisé par notre système, puisque il fallait que ça soit dans l'éducation nationale, ou c'est pas forcément la faute de l'éducation nationale, c'est dans notre inconscient collectif, on s'est dit finalement il faut que tout le monde puisse s'élever avec des professions dites intellectuelles, comme s'il n'y avait pas finalement d'intelligence dans la main.
Finalement l'artisanat, les métiers par exemple du cuir, les métiers, enfin tous ces éléments-là qu'on cherche aussi à relocaliser d'une certaine manière depuis quelques années.
Exactement, donc vous avez parlé d'artisanat, ça fait déjà quelques années que, notamment grâce à des campagnes de communication très intelligentes, on a redécouvert cette beauté du geste sur des choses petites, hein, parce que ça en France c'est très important, les trucs petits c'est mignon, les trucs un peu plus gros on s'en méfie. Mais en tout cas on est parti là-dessus. L'agriculture avec le bio est redevenu quelque chose d'intéressant pour tout le monde, et l'industrie, à l'heure où on parle d'urgence climatique, à l'heure où on se dit il va falloir produire autrement, où on se rend compte qu'on a laissé partir toutes nos usines et que quand on consomme, finalement ça vient de pays très très loin. Donc un, vous produisez n'importe comment là-bas, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de gendarme comme chez nous qui va regarder si les normes sont respectées, etc. Mais en plus, vous les réimportez. Donc on marche sur la tête là-dessus. Donc ça veut dire que on a de plus en plus de gens qui se réintéressent à l'industrie, et ça c'est assez paradoxal, mais et qui arrivent par le prisme du climat. C'est-à-dire qu'ils se disent, je pense que je vais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice en participant à une industrie qui va se verdir. Et donc, bon, il y a des gens qui rejettent encore complètement cette industrie, mais il y en a de plus en plus qui arrivent en disant pourquoi pas. Donc en fait, dans le salon du Made in France, nous on est venu apporter un peu notre caution, notre partenariat, en disant, bah oui, c'est quand même beaucoup mieux de produire en local, c'est beaucoup mieux d'être en circularité en matière économique que de fermer les yeux en disant non, on est très vertueux parce qu'on n'a pas d'industrie chez nous, mais après on continue à consommer des trucs qui viennent de l'autre bout du monde, quoi.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment la main d'œuvre qui est là? Parce qu'il y a pas seulement la question de la formation, de la transmission, il y a aussi la relocalisation, ça veut dire peut-être réinventer des métiers, les remettre en route, c'est-à-dire il faudra peut-être imaginer des filières de formation. Est-ce que votre magazine, votre média parle de tous ces éléments-là ?
Exactement. Alors vous avez une interview très intéressante d'une femme remarquable qui s'appelle Maï Traoré, qui d'une part nous a expliqué son parcours de vie, hein, puisqu'elle est née au Mali, ensuite elle a fait la Sorbonne, et aujourd'hui elle est proviseure d'un très grand lycée professionnel qui se trouve être l'enceinte qui accueille l'école du verre et du vitrail à Paris. Donc c'est-à-dire que ça forme les artisans d'art, les ouvriers d'art, pardon, pas artisans, parce qu'on dit ouvriers d'art, qui sont en train de rénover Notre-Dame. Donc c'est extraordinaire. Mais à côté de ça, vous avez tout un tas de filières classiques de l'enseignement professionnel. Et cette dame, qui est vraiment quelqu'un qui a une vocation dans l'enseignement qui est incroyable, mais elle regrette que dans notre système, l'enseignement professionnel soit dépriorisé et que du coup, les enfants, les élèves qui viennent là-bas, souvent viennent par dépit, par défaut, ils sont orientés et ils vivent ça comme un échec.
Alors aujourd'hui, vous êtes complètement en fait dans la feuille de route d'Emmanuel Macron, je crois, hein, par rapport à l'enseignement professionnel.
Eh bien écoutez, on l'a écrit un petit peu avant qu'il fasse ses annonces, mais on aurait effectivement pu se téléphoner que... voilà. Mais c'est complètement ça, c'est-à-dire que en fait, il faut écrire un nouveau récit. Parce que le récit qu'on a en tête, il nous vient de Zola, il nous vient de la première révolution industrielle, il nous vient... moi, je viens d'Auvergne, j'ai mon village... Il y avait 2500 habitants au début du XXe siècle, il y en a 600. C'est donc les Auvergnats ont été s'entassés dans les faubourgs parisiens pour vendre du charbon, pour faire des choses comme ça, etc. Donc, si vous voulez, l'image qu'on a de l'industrie, c'est encore ça. Or, vous avez des gens qui sont fiers de leur métier. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? Vous avez aussi des interviews dans ce magazine de gens, notamment Nicolas Denain, notamment Candice Janton, qui font visiter des usines à des enfants scolarisés avec la maîtresse, avec le maître qui arrive en disant, regardez...
Je crois qu'il y a besoin de pédagogie, vous avez raison.
Exactement. Et ça, c'est remarquable, vous savez pourquoi ? Parce que, un, pour les enfants, ils découvrent quelque chose, ils apprennent quelque chose de concret, de pratique, et au-delà des lignes qu'ils lisent, c'est bien, c'est pas bien, etc., ils voient ça. Ils sont émerveillés. Et quand vous avez à côté d'eux un ouvrier, un manœuvre, quelqu'un qui manie une machine, à qui on a expliqué pendant toute sa formation que ouais bon vraiment il faisait quelque chose parce qu'il n'avait pas les moyens de faire autre chose, et qui voit les yeux des gamins émerveillés à côté de lui, ils rentrent chez eux, ces gens-là, et ils se disent, je fais un truc utile et je suis fier de mon boulot.
Il y a une revalorisation de toute façon à trouver, un chemin à refabriquer, ça c'est certain. On trouve votre magazine sur abonnement, en kiosque, où on le trouve où ?
Alors, en kiosque, et effectivement, vous l'avez sur le site lesdéviations.fr, si vous l'avez en direct.
En version numérique.
Alors non, en version papier, mais effectivement, après, vous retrouvez sur notre site un certain nombre de, j'allais dire, de sujets qui sont complémentaires, alors qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux-là, mais qui sont, parce qu'on a aussi, j'allais dire, on traite de gens qui deviennent sages-femmes alors qu'ils étaient grands chefs de la communication dans une marque de cosmétiques.
Et vous avez plusieurs contributeurs, ce sont des journalistes, des sociologues, comment vous recrutez en fait les gens qui écrivent pour vous ?
Alors, l'essentiel des gens qui écrivent sont des journalistes et on va interviewer, ou alors parfois effectivement on a des tribunes libres, mais plutôt c'est des interviews. On va interviewer des intellectuels, des sociologues, des philosophes, des entrepreneurs, des anthropologues, des historiens. Très important parce qu'en fait on se pose aussi cette question de est-ce que la quête de sens, est-ce que c'est toutes ces questions autour du travail, est-ce que c'est uniquement notre époque ou est-ce qu'avant on se posait les questions et comment les gens apportaient une réponse, ce qui peut éclairer quand même.
Merci beaucoup. Les Déviations numéro 2, c'est en kiosque et sur le site, comment, lesdéviations.com
.fr.
.fr.
C'est presque.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bon,
ouais, merci.
C'était Laurent Moisson, directeur de publication du magazine Les Déviations, une publication et un club sur les changements de vie, inspirant pour tous ceux qui envisagent un virage, voire un changement de cap radical. Gaëlle, cette semaine, tu nous parles d'un atlas, et pas n'importe quel atlas, un atlas en mouvement. Une sublime exposition de Mathieu Pernot, qui m'a été donnée de voir à la bibliothèque de la Pardieu.
Exactement, l'exposition L'Atlas en mouvement, photographie de Mathieu Pernot, à la bibliothèque municipale de la Pardieu. Alors, avant d'être un recueil de cartes et de plans représentant un espace donné, Atlas est un célèbre titan. L'exposition L'Atlas en mouvement s'ouvre avec une estampe de 1563 réalisée par deux artistes hollandais, Cornelis Cort et Frans Floris. On voit le géant Hercule en train d'aider Atlas à porter le monde car Atlas avait été condamné par Zeus à porter la voûte céleste pour l'éternité. En grec ancien, Atlas signifie le porteur, qui a donné ensuite le terme atlas que nous connaissons. L'atlas de Mathieu Pernot est en mouvement. Le photographe s'attache à représenter les populations migrantes dans leur déplacement. Cet ample projet a été réalisé sur plus de 10 années. L'exposition entrelace carnets de récits de voyage, tracés d'itinéraires d'exil, dessins de migrants, empreintes de mains de migrants, photographies de Mathieu Pernot et œuvres plus historiques du fond de la bibliothèque qui éclairent la lecture des migrations contemporaines. Des dialogues s'instaurent ainsi tout au long du parcours organisé autour de 8 sections, je les cite rapidement: partager les savoirs, sous les étoiles, dans la nature, des villes détruites, prendre la mer, autour du feu, éprouver son corps et raconter son histoire. Exemple de dialogue dans la section « Éprouver son corps » avec des empreintes de mains de migrants. Sachez que les empreintes sont faites depuis 2003 à la demande de la Commission européenne, entraînant certains migrants à se brûler les paumes et les doigts afin de ne pas être identifiés. En vis-à-vis de ces empreintes saisies par Mathieu Pernot, sont exposés des livres sur l'anthropométrie et un manuel de technique policière. Lorsque Alphonse Bertillon crée son système de mesure morphologique en vue d'un usage judiciaire, il lance le bertillonnage, que l'on pourrait qualifier aujourd'hui d'ancêtre lointain de la reconnaissance faciale. Toujours dans cette section figure la fameuse série « Migrants » de Mathieu Pernot. Les migrants sont photographiés dans leur sommeil, le corps caché par un drap ou un sac de couchage, ressemblant ainsi à des sculptures. C'est pourquoi le Musée des Beaux-Arts de Lyon les avait inclus dans son exposition consacrée aux drapés en 2020. La série « Migrants » est complétée par des photographies de Mohamed Abakar, qui a fui le Soudan à l'âge de 23 ans. Arrivé en France en 2015, il intègre le programme « Étudiant invité » de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Intitulé « Réfugiés à découvert », ces clichés ont été pris à Versailles en 2017. Vous verrez bien le visage des migrants, mais qui pose cette fois à côté de sculptures, en revanche bâchées. La section « Dans la nature » comprend plusieurs photographies d'oliviers, car le camp de Moria à Lesbos en Grèce est établi dans des oliveraies. Habitant dans des abris de fortune, les migrants coupent les oliviers pour en faire du bois de chauffage. La nature, c'est aussi la jungle, celle de Calais, que Mathieu Pernot a saisie avant son démantèlement en 2009. Mathieu Pernot immortalise aussi les points de départ des migrants dans la section des villes détruites, Homs et Alep en Syrie. La guerre civile syrienne a engendré plus de 13 millions de déplacés, dont 6,6 millions qui ont dû quitter le pays. Des photographies de Mossoul en Irak montrent aussi une ville complètement détruite et abandonnée par ses habitants. L'Atlas est bien en mouvement. La section sous les étoiles offre quatre visions de la voûte céleste reconstituées aux dates et lieux auxquels s'est trouvé l'astronome et enseignant Mohamed Ali Samounet lorsqu'il a fui Alep pour Paris. Il travaille désormais à l'Observatoire de Paris. L'exposition comprend également des vidéos prises par les migrants sur leur téléphone et envoyées à Mathieu Pernot. Passage de frontière ou tentative de passage, manifestation pour l'évacuation de réfugiés, incendie dans le camp de Moria ou tente détruite. Tous ces témoignages, saisis de l'intérieur, sont réunis dans un corpus nommé « Ce qu'il se passe ». L'Atlas en mouvement s'inscrit dans le cycle que la Bibliothèque de la Part-Dieu consacre à la thématique « Prendre le temps du désir de ralentir à l'urgence d'agir ». La programmation est vaste, conférences, ateliers, projections, rencontres, débats, balades du patrimoine et balades sensorielles. Le cycle « Prendre le temps » est programmé jusqu'au 17 juin 2023 et l'exposition « L'Atlas en mouvement, photographie de Mathieu Pernot » jusqu'au 1er juillet 2023. Plus d'informations sur bm-lyon.fr.
J'invite mes auditeurs à découvrir cette exposition qui est vraiment très 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 intéressante. La semaine prochaine, nous parlerons d'une autre exposition, justement, que j'ai vue à la bibliothèque municipale. Mais je n'en dis pas plus, c'est un petit peu un teaser. Allez, on se retrouve juste après ce petit jingle. Thomas, cette semaine, tu es venu avec la ferme intention de nous faire entendre un texte de Daniel Birnbaum. Mais tu ne t'arrêtes pas là, il y aura aussi un texte de Thierry Radière et le troisième est de Salvatore Sanfilippo. Tous ces auteurs ont été publiés aux éditions Gros Texte.
L'arbre. Je suis assis au pied de l'arbre et regarde l'espace. J'aime bien ce mot « espace ». Dès qu'on l'utilise, on a l'impression d'être sauvé, d'être complice de ces mystères. Ou peut-être que, comme on se lance dans les deux avec le même départ, je confonds espace et espoir. Je m'étais assis avec cette question en tête. Y a-t-il une différence entre être seul et être seul avec soi-même ? L'arbre, seul aussi, ne disait rien, car il sait, lui, gagner l'espace sans l'envahir de pensées maladroites, juste en prenant de la hauteur. Quand plus rien de terrible ne veut sortir de ma tête, je suis bien embêté. Je reste convaincu que c'est fini et je commence à manquer d'air, à sentir des ombres inconnues venir me dire bonjour. C'est angoissant de n'être plus rien pendant des heures, des jours parfois, parce que c'est un peu comme une dispute intérieure entre soi-même et quelqu'un d'invisible, assis dans un fauteuil de directeur en train d'attendre sa ration de plaisir, une baguette à la main, un air pincé aux lèvres. Il faut que la douleur passe, faire preuve de patience dans ces moments de flottement sournois et lancinant. Seule la vue d'une côte au loin, d'une berge éclairée par une image, permet de ne pas se noyer complètement. Félicien. Félicien, récite-moi la table du 4. Mais Félicien ne connaît pas la table du 4. La seule qu'il connaisse, c'est celle de la cuisine, où sa mère prépare de bons petits gâteaux, où la table où il appuie sa tête. Sa tête d'ailleurs est souvent ailleurs. Elle est dans les champs, dans les nuages, à la rivière. Enfin, partout, sauf en classe. Pas de chance. Félicien, tu rêves. Je t'ai demandé la table du 4. Alors, Félicien, soudain inspiré, se lève et déclame. La table du 4 a 4 pieds. Ça tombe bien. Elle en a 2 fois moins que la table du 8, qui a 8 pieds. Mais 2 fois plus que la table du 2, qui en a 2, qui est instable. Forcément, il ne faut pas confondre la table de 7 et les 7 de table. Puis il y a la table du 100, qui a 100 pieds. C'est pas la même que la table 100 pieds. Quel chantier ! La table du 4 a parfois les pieds carrés, ronds, ou conique. C'est comique. Ou même les pieds plats et parfois complètement raplaplat. La table du 4 se transforme parfois en table de jardin ou de salon ou en table à langer. C'est magique. À la table du 4, il y a mon papa qui parfois roule sous la table, ma maman qui les fait tourner, moi qui mets les pieds sous la table et mon petit frère qui les met dessus. Voilà, voilà la table du 4. Félicien se rassoit sous le regard sévère du maître et les rires de ses camarades. Il est content de lui, Félicien. Lui qui n'osait pas parler, qui restait au fond de la classe, à sucer son crayon ou manger ses crottes de nez. Tous les regards aujourd'hui se sont portés sur lui.
C'est très beau, le troisième texte est superbe. Enfin, les trois textes sont très intéressants. Parle-nous de cette revue ou de cette maison d'édition Gros Texte.
Alors, c'est une vraie maison, elle est associative, mais c'est une vraie maison. Elle existe depuis une trentaine d'années, fondée par un poète, Ivar Tuffel. La maison est très, très prolifique. Il y a énormément de livres qui sortent chaque année sous des petits formats. Et la revue qui sort de façon un peu plus aléatoire.
Là, c'est la revue numéro 47.
C'est la revue numéro 47, avec une sélection d'auteurs qui sont par ailleurs publiés par la maison.
Donc, ce sont des petits extraits, en fait. On trouve quelque chose comme ça. C'est pour nous donner envie, en fait, d'aller plus loin sur les auteurs.
C'est donner envie, sachant que les textes qui sont dans la revue ne sont pas les textes extraits des recueils. Hein.
Ouais.
Donc, un avant-goût de l'auteur sans être un avant-goût des livres. Donc, c'est une maison extrêmement libre. Hein. On y croise des auteurs fort inconnus ou des auteurs beaucoup plus connus dans des maisons aux noms familiers. Par exemple, Thierry Radière, le deuxième texte que j'ai lu est publié aux éditions de la Table Ronde. Mais voilà, il y a tout qui se côtoie. On peut imaginer que ces auteurs ils publient des ouvrages très libres sur des formats qui ne sont pas accueillis dans les maisons d'édition classiques. Hein. On est très souvent sur du 60 pages, ce type de format.
Merci beaucoup, Thomas. On termine cette émission, comme d'habitude, avec nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Gaëlle, quel est ton Gédéon cette semaine?
Alors, après Rupture en 2019 et Être à sa place en 2022, Claire Marin, philosophe et professeure en classe préparatoire aux grandes écoles, offre un nouvel et passionnant essai intitulé « Les débuts, par où commencer ?» aux éditions Autrement dans la collection « Les grands mots ». L'essai aborde les premiers instants, l'euphorie des débuts, cette impression de vivre plus fort, l'intensité que procure l'inédit des premières fois, la joie ardente de la découverte. Cet élan du radicalement neuf oriente-t-il ou désoriente-t-il ? Révélation ou coup d'essai ? Car le début, c'est aussi le tâtonnement, la perplexité, voire la désillusion, le doute, la frustration. Le début est un coup de dé qui inaugure une nouvelle vie. Il reconfigure. Le début peut être beau, un beau début, puis sa suite décevante et inversement. Mais où se situe réellement et dans quoi le début ? Claire Marin a été saisie par un début, une naissance, celle de sa fille. Ta petite vie renverse la nôtre. Tu es l'heureuse catastrophe, pour citer l'autrice qui déploie les différents débuts après ce tout début inaugural dans son essai. Avec les débuts par où commencer, Claire Marin cite plusieurs philosophes. Jankélévitch, Kierkegaard, Bergson, Bachelard, Ricoeur, Deleuze, Merleau-Ponty, Tristan Garcia, autour desquels s'articulent, et là c'est une grande caractéristique du style de l'autrice, plusieurs références littéraires. Italo Calvino, Romain Gary, Jean-Philippe Toussaint, Claire Fercac, Emmanuel Carrère ou encore Annie Ernaux, Brigitte Giraud, Fernando Pessoa. Et la liste est loin d'être exhaustive. Sachez qu'il n'y a pas d'âge pour débuter ou redébuter. Le commencement, c'est aussi le recommencement. La capacité d'émerveillement s'épuise bien moins vite que nous. Enfin, pour citer Georges Perec, la question finalement est « comment continuer ?» Souhaiteriez-vous vivre un début là, tout de suite, maintenant ?
Ah oui.
Oui ? Écrivez de la main droite si vous êtes gaucher ou de la main gauche si vous êtes droitier. Aucune habitude n'est définitive. Les débuts peuvent sans cesse vous saisir. Je rappelle les références. Les débuts, par où commencer, de Claire Marin aux éditions Autrement.
Merci beaucoup, Gaëlle. Ça fait envie, en tout cas, de découvrir ça, c'est vrai. Avec Laurent Moisson, directeur de publication du magazine Les Déviations, nous avons évoqué ses origines auvergnates. Dans le numéro 2 de cette publication, vous trouverez un beau dossier sur cette région, avec de très belles photos. J'ai eu envie, moi aussi, d'ajouter ma petite pierre, volcanique, bien sûr, à ce spécial dédicace Auvergne. Le groupe Oisou s'est donc imposé comme une évidence pour ce Gédéon. Oisou, c'est un mélange de folk festif et d'Auvergne pur jus. Mandoline, accordéon et violon font bouger les foules compactes de fêtards. Avec leur 6e album intitulé Agriculteur, ils s'affirment comme ardents défenseurs de la ruralité et du terroir. Oisou, en bref, c'est plus de 600 concerts, plus de 600 000 albums vendus et 40 millions de streaming vidéo, s'il vous plaît. Populaire, on vous dit, c'est populaire. Je vous laisse avec l'extrait de ce 6e album, Chabrotte. Alors, où on dit, je pense, chabro plutôt. Un mot étrange, issu d'une expression, faire chabro, mettre du vin et du pain, parfois, quand on en a dans sa soupe. Bonne semaine!
Arrêtez de fouiller la gente. Je n'ai ni vu un canot, ni rien fouiller un chabot.
Chabot, chabot. Chabot, chabot. Chabot, chabot. Chabot, chabot.
J'ai mon pote Geoffrey, c'est le roi de la connerie. L'autre jour, il m'a inscrit à l'amour et dans le pré. Parisienne a débarqué, je me suis dit ça peut dépanner. Mais à peine arrivée, elle a fait sa mijaurée. Elle voulait que je lui paye le resto chez Trois Gros. Je lui ai dit non, non, ma belle, ce soir on fait chabro. Matin, elle s'est mise à hurler. Les cochons avaient bouffé ses nouveaux escarpins. Au moment de l'Angélus, elle a pété un plomb. Elle a appelé un juge pour mettre le curé en prison. Elle voulait que je lui paye le resto chez Trois Gros. Je lui ai dit non, non, ma belle, ce soir on fait chabro. On est parti faire l'ensilage. On aurait dit un pingouin perdu dans le désert africain. Elle m'a fait une crise car je n'avais pas de jacuzzi. Je l'ai envoyé chez Fernand, c'est le seul qui a un étang. Elle voulait que je lui paye le resto chez Trois Gros. Je lui ai dit non, non, ma belle, ce soir on fait chabro.
Chabro, chabro.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.